Vous écoutez On lit pour vous.
Brasseur de Montréal devra brasser ses bières à l'extérieur de Montréal. Un texte d'Hélène Barry paru le 8 juillet 2026 dans La Presse. L'entreprise Brasseur de Montréal, dont les produits célèbrent la ville qui l'a vu naître, s'apprête à déménager sa production et à brasser ses bières ailleurs qu'à Montréal. « Ce n'est pas notre choix », explique François Lefebvre, porte-parole de Molson Coors, dont Brasseur de Montréal est une division. La microbrasserie est locataire des locaux où se situent ses installations de brassage et son restaurant de la rue Ottawa, dans le quartier Griffintown. Comme tant d'autres locataires montréalais, elle a appris l'an dernier que le propriétaire, la firme immobilière Tidon, ne renouvellerait pas son bail à l'échéance du 31 janvier 2027 afin d'y réaliser un projet immobilier. « On est en train de regarder pour une relocalisation », indique le porte-parole. Selon lui, l'objectif est que Brasseur de Montréal reste dans la métropole pour y brasser de petits volumes de bière et conserver son resto-pub. Le reste de la production de Brasseur de Montréal sera transférée ailleurs. Une partie des volumes a déjà commencé à être réaffectée dans d'autres installations de Molson Coors, fait savoir François Lefebvre. Brasseur de Montréal commercialise sa bière sous 9 marques qui sont toutes associées à la ville et à ses caractéristiques. Le porte-parole n'a pas voulu préciser où les bières Griffintown, Sainte-Catherine ou encore Petite-Bourgogne seront brassées à l'avenir. Ce ne sera pas dans les installations principales de Molson Coors à Longueuil, selon lui, parce qu'elles sont conçues pour produire de gros volumes et qu'elles ne sont pas adaptées pour la production de bières de microbrasserie. Molson Coors est propriétaire de 2 microbrasseries, le Trou du Diable à Shawinigan et Creemore en Ontario, qui accueilleront vraisemblablement la production de Brasseurs de Montréal. « On va utiliser la force du réseau », se contente de dire le porte-parole. Brasseur de Montréal est une marque qui a le vent dans les voiles chez Molson Coors, qui en a fait un commanditaire des Franco cette année. Une éventuelle augmentation de la production est difficile à envisager en milieu urbain, où des limitations existent, notamment sur le transport par camion. Fondée en 2008 par 2 jeunes entrepreneurs dans un quartier qui n'était pas encore à la mode, l'entreprise s'est bâtie une solide identité montréalaise et québécoise que ses nouveaux propriétaires aimeraient préserver. Idéalement, on aimerait rester dans Griffintown, là où tout a commencé, mais on regarde différentes options, précise le porte-parole. En attendant d'avoir trouvé où installer le resto-pub de Brasseur de Montréal, le transfert de la production se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Il ne reste plus que 21 employés dans les installations de brassage, une réduction de moitié. C'était « Brasseur de Montréal devra brasser ses bières à l'extérieur de Montréal », un texte d'Hélène Barry paru le 8 juillet 2026 dans La Presse.
Quand le feu s'invite au mariage. Un texte d'Alexandre Soublière paru le 14 août 2026 dans La Presse. Un peu partout dans le monde, la réalité brutale des incendies de forêt vient bousculer le quotidien cet été. Notre collaborateur qui vient de se marier dans la vallée de l'Okanagan peut en témoigner. Les flammes ont bien failli éclipser la fête, mais elles ont aussi révélé, au passage, la force de la solidarité. Ma fiancée et moi avons passé plus d'un an à planifier chaque détail de notre mariage dans la vallée de l'Okanagan. Bien que les incendies de forêt aient changé nos plans, ils ont dévoilé pour nous la résilience d'une région où cette terrible réalité fait partie de la vie. C'est prévu pour le 8 août 2026 sur le long balcon de la Casa à West Kelowna. On avait choisi ce lieu pour sa vue époustouflante sur le lac Okanagan et ses flancs verts et jaunes paille qui s'élèvent à l'horizon. Pour se rendre à la casa, il n'y a qu'une seule route, West Side Road. Par le nord, elle a été bloquée à partir du 1er août en raison de l'incendie de forêt de Bradley Creek qui a dévasté plus de 200 maisons, dont celle de plusieurs membres de la communauté autochtone Okanagan Indian Band, OKIB. Une semaine avant de prononcer nos vœux, donc, on s'est demandé s'il était encore sécuritaire de rassembler notre famille et nos amis à quelques lieues de cette poudrière. Sécuritaire et de bon goût, car évidemment, nos tracas de noces sont bien futiles en comparaison avec ceux des personnes qui ont tout perdu dans les incendies. Le dimanche 2 août 2026, l'incendie de Quillipiuk Creek, plus au sud sur West Side Road, a pris la décision pour nous. La casa était visée par un ordre d'évacuation. Au début, le site du BC Wildfire Service, qui recense tous les incendies de forêt de la province, indiquait que ce nouvel incendie couvrait 0,09 hectares. Durant la semaine, il a cru à plus de 1000 hectares. Notre mariage était donc à l'eau, ou plutôt au feu. Après une journée d'incrédulité et de déception, la sœur de ma fiancée a décidé de lancer une publication sur Reddit « Pouvez-vous nous aider à rescaper les noces ?» Les messages d'encouragement ont déferlé immédiatement. Il y a eu des suggestions de vignobles, de restos et même des gens qui nous ont offert leur cour arrière. La pasteur anglicane qui devait célébrer notre mariage à la casa a suggéré d'ouvrir son église à Kelowna. Un dénommé Forrest, qui vient tout juste de bâtir The Point, un petit domaine au bord de Wood Lake, plus à l'est, nous a invités à y tenir notre événement à prix raisonnable. Je reviens souvent dans mes chroniques sur la perte du sens de la communauté dans nos vies, mais la semaine dernière, j'ai vu la magie d'une communauté qui s'active. Plusieurs nous ont dit que s'ils n'avaient pas le pouvoir de sauver les maisons déjà en cendres, peut-être pourraient-ils au moins laisser passer un rayon de soleil à travers la boucane en aidant à sauver notre mariage. Un « happy ending » aussi modeste soit-il. Il restait désormais 2 jours avant le 8 août 2026. On a loué des tables et des chaises, on a fait une demande de permis d'alcool roche, on a acheté que des vins locaux, on a commandé des tartes d'un artisan qui cuisine tout avec les fruits de son verger. Autre défi, les horaires de l'aéroport de Kelowna était complètement chamboulé puisque l'espace aérien devait être libéré pour les avions-citernes. Mes invités ont donc eu énormément de difficultés à se déplacer. À mesure que je les voyais arriver, ma joie était teintée par la crainte de les avoir attirés trop près du danger. Le matin du mariage, une alarme a sonné simultanément sur nos téléphones. Des communautés étaient évacuées plus au sud en raison du nouvel incendie de Bald Range. Le même jour, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Hebe, déclarait l'état d'urgence provincial. Au moment où j'écris ces lignes, on estime que l'incendie de Bald Range a ravagé plus de 15 000 hectares. Dans ce genre de situation, on se sent tellement impuissant qu'il est difficile de savoir comment venir en aide concrètement. Mais chaque petit geste compte. C'est cliché parce que c'est vrai. En sortant de l'église, après notre cérémonie, j'ai vu des gens applaudir des pompiers qui passaient dans la rue. J'ai aussi eu vent de multiples campagnes de financement pour soutenir les communautés affectées. et j'ai entendu des touristes promettre qu'ils reviendraient chaque été malgré l'incertitude. C'est rassurant de voir qu'il y a encore du bon chez les gens, même lorsque tout brûle. La première fois que ma fiancée m'a emmenée à Vernon, j'ai tout de suite adoré. Pour elle, qui y a grandi, ces paysages étaient devenus la routine. Elle n'en voyait plus la beauté, mais elle a fini par la redécouvrir à travers mes yeux. C'est là que le concept de notre mariage est né. On voulait faire découvrir cette région aux gens qu'on aime. C'est grâce à ces gens qu'on aime, justement, et à tous les inconnus qui nous ont encouragés à ne pas l'annuler, que notre mariage s'est avéré absolument incroyable. Après le souper, au coucher de soleil rouge-orange, devant un paysage magnifique complètement caché par la fumée, un ami m'a lancé une phrase sans trop réaliser la sagesse de ses paroles. La beauté est là, même quand on ne la voit pas. C'était, quand le feu s'invite au mariage, un texte d'Alexandre Soublière, paru le 14 août 2026 dans la presse.
Éphéméride. Un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. En 1945, débarquement des troupes américaines au Japon. À la suite de la capitulation japonaise, les premières troupes américaines commencent à débarquer sur le sol japonais afin d'entamer l'occupation du pays. Cette opération marque le début d'une présence militaire américaine qui façonnera durablement le Japon d'après-guerre. Elle s'inscrit dans le cadre plus large de la reconstruction et de la démocratisation du pays sous l'autorité du général MacArthur. Cet épisode clôt symboliquement la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août.
Le fil de la cohésion sociale. Un texte de Boucard Diouf, paru le 20 juin 2026 dans la presse. Quand on regarde l'indice de fierté du Québec francophone avant son arrivée au pouvoir et maintenant, force est d'admettre qu'on doit des remerciements à François Legault. Cette confiance retrouvée qui tranche abruptement avec l'époque des Charest, Couillard et Marois est peut-être son legs le plus important. Aujourd'hui, autant sur la langue que sur la culture, tous les partis sont obligés de s'engager clairement auprès des francophones. François Legault a imposé ce service minimum obligatoire auquel le Parti libéral du Québec, PLQ, n'était pas tenu avant l'élection du premier gouvernement de la coalition Avenir Québec, CAQ, une nouvelle donne qui pose beaucoup de problèmes à Charles Milliard. Même les indépendantistes doivent reconnaître que M. Legault a fertilisé ce champ qui a fait renaître et fleurir les idéaux nationalistes de tout acabit qui traversaient une longue période de dormance. Lorsqu'il marche main dans la main avec l'inclusion, le nationalisme et l'expression des appartenances sont des valeurs indissociables de l'espèce humaine. Il suffit de voir les manifestations de fierté que déchaîne la Coupe du monde de football pour s'en convaincre. Même bien loin du Sénégal, nous étions nombreux à chanter l'hymne de notre pays d'origine en espérant battre une équipe de France qui s'est révélée finalement trop coriace. Je vous parle des Bleus car le nationalisme identitaire français d'extrême droite raconte souvent que cette extraordinaire équipe n'est pas une représentation de l'Hexagone. Pourquoi ? Parce que les joueurs y sont majoritairement des jeunes racisés. Dans le monde fantasmé de ce mouvement d'exclusion, l'équipe de France devrait ressembler à celle qui défendait les couleurs du pays dans les années 1970. Quelle tristesse ! Lorsque je vois ces mouvements d'extrême droite défiler au grand jour dans la majorité des pays européens, je réalise à quel point, sans être parfait, le Canada et le Québec sont encore des havres de paix et d'inclusion. J'ai bien dit « sans être parfait », car nous sommes loin d'être à l'abri des manifestations de ces idéologies d'exclusion. Pour s'en convaincre, il suffit de penser aux méthodes xénophobes de ce groupe de policiers du poste de quartier 39 à Montréal, une histoire de racisme dégueulasse qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Chose intéressante, cette fois-ci, ce sont des policiers qui ont dénoncé d'autres policiers pour leur comportement répréhensible. Il est donc bien plus difficile de verser dans le relativisme médiatique, comme c'était souvent le cas face à d'autres révélations semblables. C'est rassurant d'apprendre que la dénonciation est venue de l'intérieur, portée par des agents plus justes. C'est tout aussi rassurant de savoir que Fady Doher s'est toujours montré sensible à cette problématique qui est bien réelle dans la police et l'a toujours dénoncée clairement. La très grande majorité des policiers ont enfilé l'uniforme pour les bonnes raisons, mais comme dans le reste de la population, il en existe qui couvaient des préjugés raciaux dans leur cœur et leur esprit avant d'entrer dans le métier. Or, une police xénophobe est socialement très dommageable. Quand leur berger attitré devient leur prédateur, l'angoisse et l'anxiété ne quittent plus le cœur des agneaux, dirait mon grand-père. Toute la classe politique québécoise a dénoncé ce qui s'est passé au poste de quartier 39 d'une seule voix. Cependant, avec le trumpisme bien implanté aux États-Unis et les mouvements d'extrême droite identitaire et anti-immigration qui avancent vers le pouvoir en Europe, avons-nous une muraille de protection suffisamment haute pour nous protéger? Arriverons-nous à résister à ces idéologies d'exclusion qui se nourrissent de l'immigration et des problèmes inhérents au vivre ensemble? Je l'espère sincèrement, mais la probabilité de se faire contaminer est très élevée. Je quitte cette chronique pour les vacances d'été, mais je vous parie que ce sujet sera encore au cœur de notre prochaine campagne électorale. Les dérapages et les déchirures sociales seront inévitables. Permettez-moi de souligner d'avance que le Parti québécois, PQ, qui mène encore dans les sondages, risque gros à entrer dans une surenchère avec la CAQ sur les dossiers touchant au vivre ensemble et à la laïcité. Une énorme pelure de banane pourrait se cacher dans cette tentation. En cause, l'indépendantisme des jeunes dont on parle beaucoup depuis quelques années et qui s'exprime sur les réseaux sociaux est indéniablement un projet très sensible à l'inclusion. Aussi, un petit dérapage médiatique pourrait tout faire basculer, car dans les réseaux sociaux, être « in » et devenir « out » se fait à très grande vitesse. Il suffit que quelques jeunes influenceurs qui se disent indépendantistes se dissocient d'une promesse qu'ils jugent discriminatoire ou raciste pour que tout ce qui était tendance soit honni, vilipendé et méprisé. Je ne propose pas ici de mettre ces sujets à l'abri de nos débats. Je plaide simplement pour le discernement. Sur le dossier de la laïcité et du vivre ensemble, le Québec a toujours cherché une voie de passage entre le modèle multiculturaliste britannique, qui est un échec, et le modèle trop coercitif de la France, qui est tout aussi dysfonctionnel. Je crois qu'on gagne à rester sur cette fine ligne pour ne pas trop chambarder la cohésion sociale. L'immigration et le vivre ensemble ne sont pas à l'abri de la critique politique. Mais lorsque ces sujets s'invitent dans le débat, il ne faut jamais oublier qu'on parle d'histoire humaine, de personnes avec des espoirs, des peurs et des rêves. Je propose d'ailleurs aux politiciens d'arrêter de parler de « nos immigrants » comme dans « il faut franciser nos immigrants » ou « il faut intégrer nos immigrants ». Je déteste cette formule car elle renvoie à une idée de possesseur et de possédé. Pourquoi ne pas simplement parler des immigrants ? La culture francophone et la langue qu'il apporte ne pourront se perpétuer et rester majoritaires au Québec qu'en incluant autour de leurs valeurs communes et non en divisant toujours plus. N'en déplaise à ce groupuscule identitaire masqué qui déroulait récemment une banderole exprimant sa nostalgie d'un Québec blanc, ce temps ne reviendra pas, sauf évidemment si leur slogan parlait de la blancheur hivernale. Si c'est le cas, qu'il soit rassuré, le Québec redeviendra entièrement blanc en janvier. En vérité, il y a autant de chances de voir se réaliser le souhait exprimé sur cette banderole que de voir l'équipe de France redevenir blanche pour apaiser les anxiétés identitaires du Rassemblement national, RN. Notre avenir ne peut résider dans l'opposition entre le « nous » et le « eux ». Désormais, la seule façon d'envisager ce futur est de travailler à additionner autour de valeurs communes plutôt qu'à soustraire en gardant un œil sur la seule loi du nombre. Autrement dit, même si le nationalisme québécois est indissociable de l'identité, on gagne à l'éloigner le plus loin possible de l'identitaire qui porte une charge lexicale beaucoup moins noble. Si l'identitaire flirte avec la pureté d'appartenance et la xénophobie, contrairement aux grands travaux routiers, l'identité n'est jamais coulée dans le béton. Avec le temps, elle évolue, elle accueille et intègre les changements avec sérénité autour de la langue, la culture et les valeurs d'égalité et d'inclusion. Évidemment, ce travail n'est pas toujours facile. Pour emprunter ce chemin, lorsque vient le temps pour un politicien d'ouvrir la bouche, l'aiguille qui rapièce le tissu social est toujours plus recommandable que le couteau qui tranche tout sur son passage, les yeux rivés sur les sondages. C'était Le fil de la cohésion sociale, un texte de Boucard Diouf, paru le 20 juin 2026 dans La Presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 4 septembre. En 476, déposition de Romulus Augustule. Le jeune empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est déposé par le chef germanique Odoacre, qui se proclame ensuite roi d'Italie. Cet événement est traditionnellement considéré par de nombreux historiens comme marquant la chute officielle de l'Empire romain d'Occident. Il met fin à plus de 5 siècles d'histoire impériale romaine en Occident. Cette date symbolique est souvent retenue comme frontière conventionnelle entre l'Antiquité et le Moyen Âge en Europe. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 4 septembre.
Ça m'est arrivé de donner le numéro de tel jeune. Un texte d'Étienne Paré, paru le 17 août 2026 dans La Presse. De 2005 à 2009, méchant changement aura permis à une centaine d'ados d'avoir la chambre de leurs rêves. En animant cette émission de rénovation, Stéphane Bellavance entrait littéralement dans l'intimité des jeunes qui se confiaient beaucoup à lui. Face aux tourments de certains adolescents, l'ancienne tête d'affiche de VRAC TV se rappelle s'être déjà sentie un peu démunie. Je les écoutais et ça me faisait plaisir de les entendre, mais je leur disais que je n'étais pas toujours équipé pour recevoir tout ce qu'on me disait. Ça m'est arrivé de donner le numéro de tel jeune et de leur dire d'appeler quand la journée de tournage allait être terminée, a raconté Stéphane Bellavance, lors de son passage au balado. Je n'ai jamais été témoin de violence, mais j'ai vu beaucoup de jeunes barouetter, précise l'animateur, aujourd'hui lui-même père de 2 enfants. Au début des années 2000, les familles recomposées sont devenues presque la norme. Il se souvient d'avoir été peiné par une adolescente qui lui avait dit avoir préféré payer de sa poche ses cours de danse pour que cesse la dispute entre ses 2 parents. Une émission marquante. Beaucoup de souvenirs plus heureux reviennent à sa mémoire en parlant de méchants changements. Cette émission lui est très chère puisque c'est sur ce plateau qu'il a rencontré sa future femme, la designer Stéphanie Castonguay. De tout ce qu'il a animé, Méchant Changement est encore le projet dont on lui parle le plus, et il ne s'en plaint pas. Si tu fais de la télé, que tu es une personnalité publique et que tu trouves ça plate de te faire parler des projets que tu as faits, tu n'as peut-être pas choisi le bon domaine, estime Stéphane Bellavance, qui entamera à l'automne sa 17e saison à la barre du jeu questionnaire Génial à Télé-Québec. Chaque semaine, son équipe et lui surprenaient un adolescent et retapaient sa chambre, qui avait souvent bien besoin d'un bon coup de pinceau. Il y a eu une chambre médiévale, une autre à thématique hockey et même une d'inspiration rave, alors que le jeune qui y dormait n'avait probablement jamais mis les pieds dans un tel événement. Les choix de décoration n'ont pas toujours bien vieilli. Mais contrairement à la légende urbaine, aucun adolescent n'a exprimé de déception en découvrant sa nouvelle chambre. « J'aurais aimé ça, vivre ça, » dit Stéphane Bellavance. « J'aurais aimé qu'un jeune défonce le papier et crie « Arc !» Mais non, je le jure, sur la tête de mes enfants, ce n'est jamais arrivé. Il faut dire que les chambres qu'on refaisait, on partait souvent de loin. » Méchant changement, sans Stéphane Bellavance. Pour souligner les 20 ans de l'émission culte de VRAC TV l'an dernier, Crave a mis en ligne 30 vieux épisodes. En novembre 2026, Méchant Changement sera de retour sur la plateforme, cette fois avec l'humoriste Mathieu Dufour comme animateur. En entrevue, Stéphane Bellavance assure qu'il n'est pas insulté d'avoir été remplacé. À 51-52 ans, animé avec des jeunes de 13-14 ans, je ne sais pas. « Je pense que Matt Duff est un excellent choix », résonne Stéphane Bellavance, qui n'a que de bons mots pour son successeur. L'ancienne idole des jeunes souhaite que la nouvelle mouture connaisse beaucoup de succès. Stéphane Bellavance doute par contre que les nouveaux épisodes puissent avoir le même impact que ceux d'il y a 20 ans. VRAC TV était à l'époque à peu près la seule source de divertissement. Aujourd'hui, n'importe quelle émission jeunesse peut difficilement avoir le même impact que Méchant Changement ou Radio Enfer. Le contexte a tellement changé avec les réseaux sociaux, note-t-il. C'était « Ça m'est arrivé de donner le numéro de tel jeune », un texte d'Étienne Paré paru le 17 août 2026 dans la presse.